5. Sur la route, Brady appelle Sammy's Pizza pour commander une petite pepperoni champignon à emporter. S'il pensait que sa mère en mangerait une part ou deux, il en aurait commandé une plus grande, mais il n'est pas tombé de la dernière pluie. Peut-être qu'elle en mangerait si c'était une pepperoni Popoff, pense-t-il. S'ils en faisaient des comme ça, je devrais laisser tomber la moyenne et passer direct à la géante. Cette partie nord de la ville est bordée de lotissements bâtis entre la guerre de Corée et celle du Vietnam, ce qui signifie que toutes les maisons se ressemblent et qu'elles commencent toutes à tomber en ruine. Bien qu'il fasse maintenant nuit noire, des jouets en plastique traînent encore sur la plupart des pelouses d'herbe de rue. Les Hartsfield habitent au 49 Elm Street, où il n'y a aucun orme et où il n'y en a probablement jamais eu. C'est juste que toutes les rues dans cette partie de la ville, très logiquement appelée Northfield, portent des noms d'arbres. Brady se gare derrière la Honda rouillée de maman, qui, soit dit en passant, a besoin d'un nouveau pot d'échappement, de nouveaux joints d'étanchéité et de nouvelles bougies, sans parler de la vignette du contrôle technique. « Laisse-la s'occuper de ça », pense Brady. Mais elle ne le fera pas. C'est lui qui le fera. Il n'a pas le choix. Comme c'est lui qui s'occupe de tout le reste. « Comme je me suis occupé de Frankie », se dit-il. « À l'époque où le sous-sol était juste le sous-sol et pas encore mon centre de contrôle. » Brady et Deborah Hartsfield ne parlent jamais de Frankie. La porte est fermée à clé. Elle aura au moins retenu ça, même si Dieu sait que ça n'a pas été facile. C'est le genre de personne qui croit que dans la vie, OK est la réponse à tous les problèmes. Tu lui dis « Remets le lait au frigo quand t'as fini de t'en servir », elle dit « OK ». Puis tu rentres chez toi le soir et le lait est toujours sur la table en train de tourner. Tu lui dis « Tu peux faire une lessive s'il te plaît ? Il me faut un uniforme propre pour demain ». Elle dit « OK ». Mais quand tu passes la tête dans la buanderie, le panier à linge sale est toujours plein. C'est le bavardage de la télé qui l'accueille. Quelque chose à propos d'un défi immunitaire, donc elle regarde Survivor. Il a essayé de lui dire que c'était truqué, un piège à con, quoi. Elle dit que oui, d'accord, elle sait, mais elle ne rate jamais un épisode.
C'est moi, maman.
Bonjour, mon chéri.
La voix à peine pâteuse, ce qui n'est pas trop mal pour cette heure avancée de la soirée. Si j'étais son foie, pense Brady, je profiterais qu'elle est en train de ronfler la nuit pour m'échapper par sa bouche et foutre le camp d'ici. Il ressent tout de même cette petite étincelle d'anticipation en entrant dans le salon. Cette étincelle qu'il déteste. Elle est sur le canapé dans le peignoir de soie blanc qu'il lui a offert pour Noël. Et il peut voir autre chose de blanc à l'endroit où le peignoir est entrouvert, très haut sur ses cuisses. Sa culotte. Il refuse de penser au mot « string » s'agissant de sa mère. Trop sexy. Mais c'est quand même là, dans un coin de sa tête. Un serpent caché dans du sumac vénéneux. Il peut aussi voir le contour arrondi de ses tétons. Ce n'est pas normal que ce genre de choses l'excite. Elle approche de la cinquantaine. Elle commence à avoir de la graisse superflue au niveau de la taille. C'est sa mère, pour l'amour de Dieu. Mais... J'ai de la pizza, dit-il, montrant la boîte et pensant... « J'ai déjà mangé. »«
J'ai déjà mangé, » répond-elle.
Probablement que oui. Quelques feuilles de laitue et un pot de yaourt. C'est comme ça qu'elle entretient ce qui lui reste de silhouette.
« C'est ta préférée, »
dit-il en pensant. « Non, c'est la tienne. Régale-toi, mon chéri. »«
Non, c'est la tienne. Régale-toi, mon cœur. »
Elle lève son verre et prend une petite gorgée raffinée du bout des lèvres. Les lampées sont pour plus tard, quand il sera monté se coucher et qu'elle le croira endormi. Son peignoir s'ouvre un peu plus. Peignoir blanc, string blanc. Culotte, se dit-il, culotte. C'est qu'une culotte, c'est ma mère, c'est maman, et quand c'est ta maman, c'est rien qu'une culotte. Elle le voit en train de regarder et sourit. Elle ne rajuste pas son peignoir.
Les survivants sont au Fidji cette année.
Elle fronce les sourcils.
Je crois que c'est Fidji. Bref, une de ces îles. Viens regarder avec moi.
Non, je crois que je vais descendre travailler un peu.
Sur quel projet tu travailles en ce moment, mon chéri ?
Un nouveau routeur.
Elle ne saurait pas faire la différence entre un routeur et un bloc moteur. Donc, c'est sans risque.
Un de ces jours, tu vas nous inventer un truc qui nous rendra riches,
dit-elle.
Je le sais. Et alors, adieu le magasin d'électronique et adieu le camion de glace.
Elle le regarde avec de grands yeux à peine mouillés par la vodka. Il ne sait pas combien elle en descend au cours d'une journée ordinaire, et compter les bouteilles vides ne sert à rien, car elle les jette quelque part. Mais il sait que sa résistance est hallucinante.
« Merci, »
dit-il, se sentant flatté malgré lui, ressentant d'autres choses aussi, vraiment, vraiment malgré lui.
« Viens faire un bisou à ta maman, mon lapin. »
Il s'approche du canapé, s'obligeant à ne pas regarder le devant du kimono béant et s'efforçant d'ignorer le fourmillement croissant juste au-dessous de sa boucle de ceinture. Elle lui tend une joue, mais quand il se penche pour l'embrasser, elle tourne la tête et presse ses lèvres humides et entrouvertes contre les siennes. Elles ont le goût de l'alcool, et il sent le parfum qu'elle se met toujours derrière les oreilles. Elle en met ailleurs aussi. Elle pose une main sur sa nuque et passe ses doigts dans ses cheveux, déclenchant un frisson qui lui parcourt l'échine jusqu'au creux des reins. Elle effleure sa lèvre supérieure du bout de la langue très furtivement. Un contact à peine perceptible, puis se recule et lui fait le regard innocent de Starlet.
« Mon lapin !»
souffle-t-elle comme l'héroïne d'une comédie romantique pour filles. Le genre où les hommes brandissent des épées et les femmes portent des robes à décolleté plongeant, leurs nichons comprimés remontés en deux globes luisants. Il se libère de son emprise précipitamment. Elle lui sourit, puis retourne à sa télé, où de beaux jeunes gens courent le long de la plage en maillot. Il ouvre la boîte à pizza avec des mains qui tremblent légèrement, en prend une part et la lâche dans le bol à salade de sa mère.
« Mange ça, » dit-il. « Ça épongera l'alcool, un peu. »«
Sois pas méchant avec maman, »
répond-elle, mais sans rancœur et nullement blessée. Elle referme son peignoir, déjà absente, et perdu dans le monde des survivants à nouveau, résolu à découvrir qui devra quitter l'île cette semaine.
Et n'oublie pas de t'occuper de ma voiture, Brady. Elle a besoin d'une nouvelle vignette.
Elle a besoin de bien plus que ça,
dit-il en partant vers la cuisine. Il attrape un coca dans le frigo et ouvre la porte du sous-sol. Il reste debout dans le noir un instant, puis articule un unique mot. Contrôle. En bas, les néons s'allument. Il les a installés lui-même, tout comme il a refait entièrement la cave. Arrivé au pied de l'escalier, il pense à Frankie. Il y pense presque toujours quand il se trouve à l'endroit où Frankie est mort. La seule fois où il n'a pas pensé à Frankie, c'est quand il se préparait pour le City Center. Pendant ces quelques semaines, il avait oublié tout le reste. Et quel soulagement !
Brady, avait dit Frankie.
Son dernier mot sur la planète Terre. Les gargouillis et les hoquets ne comptent pas. Il pose sa pizza et son soda sur l'établi placé au milieu de la pièce. Va dans le cabinet de toilette aussi petit qu'un placard et baisse son pantalon. Il n'arrivera pas à manger. N'arrivera pas à travailler sur son nouveau projet. Assurément pas un routeur. N'arrivera pas à penser s'il ne s'occupe pas d'un problème urgent d'abord. Dans sa lettre au gros vieux flic, il prétendait qu'il était tellement excité sexuellement quand il avait foncé dans la foule des demandeurs d'emploi qu'il avait mis un préservatif. Plus loin, il prétendait aussi se masturber quand il revivait la scène. Si tout ça était vrai, alors il faudrait reconsidérer le terme d'auto-érotisme. Mais ça ne l'est pas. Il avait pas mal menti dans cette lettre. Chaque mensonge destiné à attiser un peu plus la colère. Et ses fantasmes sexuels bidons n'étaient pas ses meilleures trouvailles. En réalité, il ne s'intéresse pas vraiment aux filles. Et les filles le sentent. C'est sûrement pour ça qu'il s'entend si bien avec Freddy Linklater. sa collègue geek Gwyn de Discount Electronics. Pour ce qu'il en sait, elle croit peut-être que lui aussi est gay. Mais il n'est pas gay. Il est en grande partie un mystère pour lui-même, un front occlus. Mais une chose est sûre, il n'est pas asexué, pas complètement. Lui et sa mère partagent un secret, genre arc-en-ciel gothique. Une chose à laquelle on ne doit pas penser, à moins que ça ne soit absolument nécessaire. Et quand ça devient nécessaire, il faut y faire face, puis l'occulter à nouveau. « Maman, je vois ton string », pense-t-il. Et il s'occupe de son problème aussi rapidement que possible. Il y a de la vaseline dans le placard à pharmacie, mais il ne l'utilise pas. Il veut que ça brûle.